Et vraiment, ce truc des DJ hexagonaux que j'avais vu il y a longtemps, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, mais c'est quand même une super idée parce que ça court-circuite complètement ce problème, en fait, quoi.
Salut et bienvenue sur les podcasts de Wacademy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Wacademy, une école de didgeridoo en ligne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast et pour celui-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Colla Tastu. Et j'ai voulu lui poser quelques questions par rapport à sa gamme de didgeridoo qu'il est en train de lancer. Et je suis vraiment content de vous faire découvrir son travail parce que vous allez l'entendre, c'est une manière très intéressante, je trouve, d'aborder la fabrication du didgeridoo. Et surtout au niveau de la qualité, du rapport qualité-prix qu'il arrive à atteindre, c'est incroyable. Moi, je suis complètement bluffé par ses instruments. Bref, je vous en dis pas plus et je vous retrouve avec Colla. Salut Colla.
Salut Gauthier. Bonjour.
Du coup, on va parler un peu de ton parcours de joueur et puis aussi de ton parcours de fabricant. Tu es en train de préparer quelque chose que je trouve super intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle un peu. Est-ce que tu peux nous présenter juste le projet que tu es en train de créer avec tes didgeridoo, la fabrication de didg?
Alors, pour résumer ça assez simplement, je fabrique des didgeridoo qui ne sont pas creusés ou percés ou faits en méthode sandwich un peu traditionnelle. J'assemble 6 pièces de bois pour faire un tube en forme d'hexagone et c'est comme ça que je fabrique mes didge.
Ouais, c'est-à-dire que là, toi, je crois que tu as commencé la fabrication de manière un peu traditionnelle, mais la manière dont tout le monde commence un peu, quoi. Tu es allé prendre des branches ou des troncs et puis tu as creusé, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Traditionnel entre gros guillemets, parce que là, on se met dans notre référence européenne traditionnelle, c'est les aborigènes, mais ouais, c'est ça. Moi, un peu dès le début où j'ai commencé de jouer du didge, j'ai regardé un peu sur internet des infos, bah déjà pour apprendre à jouer, puis j'ai vu un peu des tutoriels. Ah ouais, on peut fabriquer soi-même ces didges avec 2-3 outils, et puis creuser des bouts de bois, et j'ai commencé assez rapidement, ouais.
Oui, et de souvenir de quand je te croisais, ou quand on s'est croisé souvent, mais t'en as fait quand même plusieurs. Tu saurais dire à peu près combien t'en as fait?
Ouais, une vingtaine, à peu
ouais,
près,
c'est
une
ça.
Grosse vingtaine, avec à boire et à manger, quoi, avec vraiment un petit peu toutes sortes de formes et un peu aléatoires au début, puis quelques bons didges dans le tas aussi que j'ai appris après.
On va revenir à ta méthode de fabrication là, que t'as développée en te basant sur déjà des idées qui étaient existantes, je crois. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi t'as voulu dériver vers cette technique?
Eh ben, ouais, comme tu dis, c'est basé sur un truc qui était déjà existant. Je suis pas le premier à faire des didges en forme d'hexagone. Après, la technique que j'utilise, un peu spécifiquement de l'assemblage, à ma connaissance, c'est quand même un truc que j'ai mis au point et qui n'était pas présent, mais en fait, ouais, ça avait été fait un petit peu de façon anecdotique par quelques personnes, et puis Greg, didgeridoo passion, on avait fabriqué aussi il y a une dizaine d'années.
Ouais, ça j'avais le souvenir, ouais.
Et j'avais trouvé le concept vachement intéressant, dans la mesure où ça te permet en fait un contrôle sur la géométrie de la colonne d'air, en fait, qui est vachement intéressant par rapport à... Bon, c'est un peu technique, là, direct, on rentre dans des détails.
Tu peux y aller. Hein.
Mais voilà, il y a ce truc où les caractères de l'instrument, c'est vraiment donné par la géométrie interne de la perce, de la colonne d'air qu'on fait. Et donc, quand on travaille avec deux pièces de bois qu'on recolle, bah, il y a tout un processus de creuser un peu... Bon, voilà, ça demande une certaine précision pour arriver à ce qu'on veut, bah, comme toujours. Mais ce truc avec la forme hexagonale, c'est qu'en fait, on travaille par... comment dire? Essayer de dire ça un peu simplement. Ça permet d'utiliser des pièces qui sont en deux dimensions, qui sont à plat, qu'on vient ensuite assembler pour avoir une forme de colonne d'air en 3D. C'est-à-dire que ça va être l'évasement de chaque lamelle de l'hexagone, qui va en fait représenter l'évasement du didgeridoo. Et donc ça permet de travailler à plat, entre guillemets, et de vraiment concevoir et de réaliser la colonne d'air précisément, c'est-à-dire quel diamètre on veut à tel endroit du didge, bah ça va être concrètement la largeur de la lamelle, quel évasement et tout, et c'est en fait ce genre de paramètres qui m'intéresse vachement dans la conception des didges, un peu le côté empirique de aller, bah comment ça se passe si tel instrument, je vais évaser un petit peu plus à cet endroit-là, ou je vais changer un peu telle longueur, tel diamètre, et avec l'assemblage hexagonal, en fait, ça me permet... d'avoir directement accès à ces paramètres, en fait, en faisant un peu abstraction des autres paramètres qui sont la forme du bois, et ensuite creuser pour respecter précisément ces dimensions.
Oui.
Donc, voilà, c'est ça l'idée, en fait, derrière. C'est vraiment pouvoir explorer les colonnes d'air
Mais du coup, toi, ce qui t'a amené à ça, c'était vraiment le fait de pouvoir reproduire tes colonnes d'air. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant. Est-ce que c'est un esprit de recherche qui t'a fait amener à te dire, OK, quelle serait la technique qui pourrait faire que je pourrais chercher de manière empirique si au bout d'un tiers de ma colonne d'air, j'évase un peu plus, ça va me donner ça ou ça?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Tu parles de reproduire les colonnes d'air, on pourra revenir en détail là-dessus après, mais ça, c'est venu après, en fait. Je me suis rendu compte que de cette méthode, il découlait de pouvoir reproduire les colonnes d'air, mais à la base, j'avais pas du tout ça en tête, j'avais pas anticipé ça.
J'ai cru que c'était un des points sur lesquels tu t'étais fixé pour faire ça, quoi.
Bah, ça m'est venu assez vite, en fait, quand j'ai réalisé en fait, que bah, pour fabriquer l'instrument hexagonal, il faut que les 6 lamelles soient exactement pareilles, pour que ça s'assemble bien, et du coup, je pars d'un gabarit, je fais un gabarit. Mmh. Et donc, en fait, si avec ce gabarit, je peux découper 6 lamelles, bah, je peux en faire 12 ou 18, et je peux refaire le dit, autant de fois que je veux, mais vraiment ça m'était pas apparu immédiatement en fait quand j'ai commencé à imaginer le truc en fait.
Je crois que j'ai trouvé l'essence de ma question. Ouais, qu'est-ce qui t'a manqué dans la fabrication, dans les fabricants ou dans ce qui t'était proposé en fait sur le marché du didgeridoo pour toi te lancer quoi, tu vois, qu'est-ce qui fait que en fait tu t'es pas dit plutôt que de passer toutes ces heures à chercher la technique que tu as élaborée pour bien assembler tes lamelles, pourquoi tu t'es pas dit, en fait, ce didge-là, moi j'aimerais bien un didge en do qui sonne comme ça, pourquoi t'es pas allé voir un fabricant de didge qui avait déjà de l'expérience et qui pouvait te fabriquer potentiellement cet instrument-là?
J'ai déjà fait ça, et en général j'étais content des didges que je suis allé chercher chez d'autres fabricants, en fait, parce que vraiment, il y a des personnes qui fabriquent des super didges et qui ont des méthodes abouties et précises. Le problème, c'est que tu sais comment c'est, on n'a pas envie de juste un didge en do, en fait. Il nous faut une panoplie de didge. Et le truc de faire soi-même, enfin, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours attiré aussi. Et comment dire, la méthode en soi, un peu classique, on va pas dire traditionnelle, parce que, voilà, pour pas abuser de ce mot-là, mais les méthodes sandwich, où elles marchent très bien, en fait. Elles marchent très bien pour arriver à un truc. Un résultat précis.
Donc je précise, sandwich, c'est quand on coupe la branche en deux, qu'on la creuse et qu'on la recolle.
Ce qui m'a manqué personnellement, en tout cas, c'est pas un manque par rapport à l'offre en fait des gens qui fabriquent, parce que je trouve qu'on est quand même vachement bien fourni et il y a des super ditches qu'on peut trouver si on sait à qui demander ou si on sait chercher. Ce qui m'a manqué moi, de toute façon, j'ai toujours fabriquer des instruments, en fait, avec les années, pour moi, pour pouvoir expérimenter, puis un peu ce truc un peu excitant de « Ah, je vais fabriquer un nouveau truc et créer un instrument qui soit un peu différent et pas avoir forcément besoin de passer par un tiers pour le faire, en fait, quoi. » Ou faire un truc qui soit un petit peu, comment dire, au niveau géométrique, au niveau sonore, un peu extravagant, quoi, qu'on va pas forcément demander à un fabricant sérieux de fabriquer un gros bousin avec une grosse cloche et tout ça. Enfin, ça peut. Mais... En fait, moi, ce qui me manquait dans ma fabrication, c'était, comment dire, j'en ai fabriqué quelques instruments sandwich qui étaient quand même de bonne qualité, mais le côté être dépendant du matériau, j'ai eu des mauvaises surprises avec des bois qui fendent et tout ça, enfin voilà, tous les gens qui ont fait des ditches connaissent ça, un peu le côté capricieux du bois, et le côté aussi vraiment au niveau de la précision géométrique, où c'est possible en fait d'avoir, mettons, une colonne d'air qu'on veut réaliser, avec tel diamètre, tel évasement et tout ça. Et en fait, concrètement, le réaliser dans la masse, c'est assez complexe si on veut vraiment se tenir à des cotes qu'on a envie de réaliser pour avoir un peu un truc rigoureux de voir, OK, si je fais telle dimension, ça donne quoi. En fait, concrètement, une fois devant la branche, personnellement, je préférais avoir un truc un peu plus du ressenti, d'aller dégrossir, avoir un petit peu à l'œil, en fait. Et j'avais du mal, en fait, à me tenir à cette idée de, comment dire... Ouais, d'aller réaliser précisément des cotes, et en fait c'est un truc qui est assez complexe à faire et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de précision. En fait, moi j'ai vachement d'admiration pour les collègues qui font ça, qui prennent deux pièces de bois, deux plateaux ou alors une demi-branche et qui vont te faire une colonne d'air pile poil. Je trouve ça assez impressionnant parce que ça demande une patience, une précision et tout, que personnellement quand je travaillais des bouts de bois, et c'est aussi parce que je faisais ça occasionnellement, tu vois, j'en ai jamais fait beaucoup, tu vois, j'en ai fait un par-ci, un par-là, alors avec les années ça fait une quinzaine d'années, donc j'en ai fait quand même pas mal, mais voilà, j'étais pas vraiment dans ce truc là et vraiment ce truc des didges hexagonaux que j'avais vu il y a longtemps, ça me trottait dans la tête, je me suis dit, mais c'est quand même une super idée, parce que ça court-circuite complètement ce problème, en fait, quoi.
Oui, du coup t'es passé vraiment de la... Oh, je vais employer des grands termes, mais la fabrication intuitive, à suivre le fil du bois, peut-être à réfléchir un peu ta colonne d'air, mais quand même à suivre un peu ce qui venait avec le bois, à une fabrication qui est l'opposé, qui est une fabrication réfléchie, parce que de toute façon, ton process de fabrication demande à avoir réfléchi. Tu ne peux pas te laisser porter une fois que tu t'es lancé là-dedans.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu fabriques ? Parce qu'en fait, tu prends des panneaux de contreplaqué. C'est ça,
ouais.
Que les personnes puissent visualiser un peu tes instruments, parce qu'en fait on s'est pas trop arrêté sur le matériau, donc c'est du bois, mais c'est du contreplaqué. Est-ce que ça nuit pas à la qualité sonore, quoi ? Est-ce que tu peux nous dire les qualités en fait acoustiques de ce matériau ?
Ouais. Alors avant de parler vraiment de l'acoustique, pourquoi concrètement j'ai utilisé ce matériau ? Parce que travailler sur le contreplaqué, ça permet d'avoir une lamelle, une latte qui soit d'une épaisseur vraiment constante, et par rapport à l'assemblage, en fait, c'est vachement important qu'il n'y ait pas un peu des irrégularités dans le bois, et ça permettait d'avoir vraiment une régularité qui soit top, quoi. Alors j'ai commencé sur des contreplaqués un peu standards, ceux qu'on trouve un peu partout, qui sont basés sur du peuplier, et c'est un bois léger, donc ça faisait des dits déjà assez légers. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu ce son léger qu'on a un peu par exemple dans certains bois flottés ou ce genre de trucs. Et maintenant les instruments que je fais sont contreplaqués de bouleau. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai trouvé, ce qui se fait de plus dense au niveau des contreplaqués. Et là, on en retrouve une sonorité qui est un peu plus celle des bois massifs. Concrètement, si on veut aller dans les chiffres, le contreplaqué de bouleau, la densité, c'est 0,7. Alors qu'une contreplaqué un peu standard, peuplier, tout ça, c'est 0,5.
Ah oui.
Donc je sais pas si c'est très parlant pour beaucoup, non, presque 0,7, c'est un peu voilà, les densités standards des bois qu'on trouve en menuiserie, des frênes, des trucs comme ça. La plupart des bois qui sont pas hyper lourds, par exemple le chêne va être plus lourd. Mais voilà, c'est densité du bois dense. Et après, en fait, c'est que des fois, on se représente assez mal ce que c'est concrètement le contreplaqué. En fait, il faut expliquer techniquement ce que c'est. Faut différencier ça des agglomérés un peu que tu trouves, par exemple, sur les meubles Ikea à pas cher, en fait, où t'as genre un plaquage en plastique qui fait bois, et derrière, t'as une espèce de poussière mélangée à de la colle.
Tu fabriques pas tes didgeridoo en meubles Ikea ?
Non, je fabrique pas mes didgeridoo en meubles Ikea. En fait, le contreplaqué, c'est fait avec des plaquages, c'est-à-dire c'est des couches de bois qui sont très fines. Ils mettent l'arbre sur un genre de tour, en fait, dans l'axe du tronc, et il y a une grande lame qui vient découper. C'est comme un taille-crayon, en fait. Sauf que c'est pas en biseau, c'est pas en cône. Et en fait, l'arbre vient tourner contre cette lame, et donc ça fait une grande feuille de bois, en fait, qui s'enroule. Ce qui fait qu'en fait, ça conserve les fibres du bois. C'est juste comme une micro-planche qui fait 1 mm d'épaisseur, à peu près, enfin, pour le contreplaqué que j'utilise, en tout cas. C'est-à-dire, plus il est fin, plus on va voir les avantages du contreplaqué, qui sont, en fait, que une fois que c'est recollé pour avoir l'épaisseur que tu veux, chaque couche est perpendiculaire à la suivante. C'est-à-dire que tu as une couche avec les fibres dans un sens, puis l'autre avec les fibres perpendiculaires, et ainsi de suite. Et le bois, en fait, il travaille que dans un axe. Il travaille dans l'axe latéral. C'est-à-dire qu'en longueur, il travaille pas. Si la longueur, c'est le sens de l'arbre. Et en fait, il va pouvoir travailler, éventuellement fissurer, s'il travaille trop, seulement dans cet axe. Et avec le contreplaqué, chaque couche, vu qu'elle est perpendiculaire aux deux couches qui sont au-dessus et en dessous, en fait, elles se tiennent mutuellement.
Ah oui.
Ce qui fait qu'en fait, c'est un matériau qui va pas pouvoir travailler et qui va pas pouvoir fissurer, parce qu'en fait, à aucun moment, en traversant le matériau, tu peux avoir en fait un truc continu au niveau des fibres. Par contre, c'est du bois, en fait. C'est du bois et un peu de colle.
Et le fait que les fibres se croisent et ne soient pas dans le même sens, ça nuit pas forcément au côté acoustique. C'est étonnant, ça, parce qu'en fait, on pourrait se dire que ça peut casser la propagation de la vibration.
J'ai pas l'impression. Après, voilà, nuire, en fait, pour être rigoureux, faudrait faire le test, si tu veux, avec le même bois qui soit pas contreplaqué.
Eh ben, vas-y, Cola, fais le test.
Je peux pas te répondre, voilà, je veux pas te dire ça fait rien, ça change rien.
Non, mais en même temps, c'est comme
la forme hexagonale, si tu veux.
En fait, c'est
une approximation de la forme circulaire qui marche très bien, et en fait, t'as à peu près les mêmes résonances et les mêmes règles acoustiques. Et je dis à peu près parce que, en fait, pour être vraiment sûr, il faudrait à nouveau prendre le même matériau et changer uniquement ce paramètre. Et voilà, comme j'ai pas fait tous ces tests, je peux pas dire exactement
qu'est-ce qui change
et qu'est-ce qui ne change pas.
C'est
je peux juste voir un peu le résultat que j'obtiens et me dire ouais, ça c'est bien, je suis content de ça.
Oui.
Non, mais ça. Je me méfie des conclusions hâtives.
Ouais, t'as raison. Là, c'est juste une question pour savoir si t'avais forcément la réponse ou.
Mais c'est pas la réponse.
C'est la question que j'allais te poser aussi au niveau de la forme hexagonale. T'as trouvé un compromis entre le nombre de lamelles à coller et le fait de se rapprocher le plus du cercle. Est-ce que ton but c'était de te rapprocher d'un cercle? Est-ce que t'as essayé quoi, tu vois, avec moins de lamelles, plus de lamelles, ou non, c'est ce que t'as trouvé de plus simple, peut-être, je sais pas.
J'ai pas essayé du carré, par exemple. J'avoue que c'est un truc qui m'a séduit un peu, l'hexagone, parce que c'est une forme que j'aime bien, que je trouve assez élégante, et qui est effectivement assez proche, en fait, assez proche du cercle. C'est-à-dire que si tu dessines un hexagone, et qu'ensuite tu traces au compas le cercle qui est à l'intérieur, bah tu vois que les coins de l'hexagone, il y a un peu de surface, mais c'est déjà très très proche d'un cercle. Et ouais, on m'a posé la question plusieurs fois, et j'ai dit, oui, il faudrait que je fasse une ditch carré, pour voir. Un peu après, c'est la question de qu'est-ce que tu considères comme dimension pour avoir une colonne d'air que tu puisses considérer comme identique. Et là, c'est un peu compliqué.
Oui. On va parler de tes recherches de colonne d'air, parce que je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas plus cherché dans le monde du didgeridoo. Je trouve que ça manque, entre guillemets, de démarches empiriques, scientifiques, quoi. Je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas, de faire, de déduire, d'essayer d'en tirer des lois, tu vois. Est-ce que toi, tu peux nous parler, alors bien sûr, dans la limite de ce que tu as envie de partager, hein. Est-ce que tu as fait, par exemple, le travail sur les tiers qui est, je sais pas, je crois que ça vient de Bob Druett, ce travail sur les tiers, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es parti sur complètement une autre base? Est-ce que tu es allé un peu au hasard?
Alors, il y a pas mal de trucs. Oui. Notamment par rapport à ce mot empirique, en fait, que peut-être on peut revenir dessus, qui a vraiment un sens de, concrètement, de déduire par l'expérience, en fait, faire une expérience, essayer de trouver des lois, qui est un peu différent d'une approche qu'ont eu pas mal de gens, de se pencher sur les lois de l'acoustique pour ensuite déduire qu'est-ce qu'on veut faire comme instrument à partir de, par exemple, de formules qu'on a établies selon des lois physiques, en fait, qu'on a déduit des principes de l'acoustique. Et moi, je suis pas dans cette démarche-là. En fait, comme tu disais tout à l'heure, un peu ce que je fais avec l'hexagone, c'est vachement différent de l'approche intuitive que j'avais avec les morceaux de bois massif. Mais le truc qui me guide un peu, c'est toujours, en fait, les repères que j'ai par rapport aux instruments que je connais, en fait. C'est que depuis les années que je joue, et que j'ai toujours été curieux d'essayer plein d'instruments, et en fait, ça me... Comment dire ? Ça me fait une sorte de base de données un peu dans ma tête de quelle géométrie va donner quel genre d'instrument. Et après, je travaille de proche en proche, en fait. C'est-à-dire, sur les instruments que j'ai déjà fabriqués, eh ben, je modifie un peu les paramètres. C'est-à-dire que comme je peux assez facilement juste... Par exemple, je sais pas, rallonger une section ou faire un tout petit peu plus évaser une autre. Ouais, j'ai vraiment ce truc de travailler de proche en proche, en fait, pour...
Quand tu dis de proche en proche, c'est que tu modifies un critère petit à petit sur une colonne d'air, par exemple?
Ouais, ça peut être ça. Ou alors je peux modifier complètement, enfin, plusieurs critères. Mais disons que par rapport à ce que j'ai déjà fait, je vais savoir à peu près où je tombe. Et si je tombe pas exactement où je veux, ce qui arrive quand même assez régulièrement, mais au moins j'apprends de ça. Et ensuite, je peux à nouveau ajuster, en fait. J'ajuste les paramètres. Et effectivement, on n'a pas beaucoup cette recherche systémique de quelle géométrie va produire un instrument de tel ou tel...
Ouais, moi, je trouve ça essentiel.
Ouais. Bah, je pense que c'est quand même une recherche que les gens qui fabriquent sérieusement ont, après, dans leur coin aussi, quoi. Moi, je vais être assez prudent sur... tu vois, tu disais sur... comment ? Est-ce que tu es confortable à partager? Moi, je suis assez confortable à partager des choses, mais en fait, j'essaye de... Comment dire je veux pas raconter n'importe quoi et dire « ça marche comme ça », parce que c'est aussi des choses qui ont été pas mal dites aussi dans le passé, un peu, voilà, des fabrications un peu à l'arrache, où on dit « bah tiens, ça a l'air d'être ça ». Il y a eu beaucoup de mythes, en fait, sur les colonnes d'air et les...
Ouais, et... c'est comme le jeu, hein, comme la technique.
Ouais.
C'est la même chose.
Du coup, je me méfie un peu d'annoncer, voilà, ça marche comme ci, comme ça. Il y a des trucs que moi j'aime bien faire et qui donnent des bons résultats. Par exemple, ces trucs de tiers, je ne savais pas que ça venait de Bob Druett. Pour moi, ça venait un peu d'un truc de la communauté de fabrication sandwich et tout, mais ça a vachement de sens. Si on le fait un peu rigoureusement, et en fait, il y a un peu ce truc de faire des colonnes compliquées, je me rappelle aussi, surtout sur les premiers ditches que j'ai fait avec du bois massif, où bah, t'as vraiment ce pouvoir de sculpter des détails et des trucs assez complexes, et d'aller du coup dans des géométries complexes sans vraiment savoir où on va. Et ça peut faire des super instruments, ou des instruments pas ouf, mais par contre, ça te prive de, comment dire, de vraiment comprendre qu'est-ce qui a donné ce caractère.
Bien
parce
sûr.
Que du coup, tu complexifies un peu les choses, Et là, sur les instruments que je fabrique en ce moment, je ne suis même pas entière, je suis en deux parties. Voilà, je,
là, ah oui, là, ok, tu bosses en deux parties. Ouais, en deux parties égales, ou quoi, tu coupes au milieu
non,
ou
non, non,
tu...
non, ouais, non, ça c'est variable. C'est un des facteurs, en fait, un des paramètres qui varie. Parce que en vrai, tu peux avoir, bon, le cylindre pur, on va dire, c'est pas très intéressant, mais tu peux avoir un instrument qui soit d'une partie, c'est-à-dire conique, avec un évasement régulier jusqu'au bout. En fait, il y en a des instruments comme ça. Et s'ils sont bien proportionnés, ça peut faire des super nidges. T'as des instruments où il y a plusieurs parties ou qui sont vachement plus complexes, mais là, de ce que je travaille, en deux parties, en fait, ça fait pas beaucoup de paramètres. T'as un diamètre en haut, un diamètre au milieu, un diamètre à la fin,
et c'est déjà
beaucoup. Et deux longueurs, et c'est déjà cinq paramètres. Tu peux faire une diversité de didge incroyable avec
oui,
ça.
Oui,
du coup,
oui,
ça
oui.
ramène un petit peu au... bah, vraiment aux fondamentaux, et de vraiment savoir quand tu changes un paramètre, bah, c'est celui-là, en fait, qui a eu telle influence sur le didge, et t'as pas changé 50 autres paramètres parce que ton bois est différent,
oui,
parce
oui.
que t'as creusé un peu différent, parce que t'as voulu faire un peu une petite fioriture dans ta colonne d'air. En fait, voilà, ça me permet d'avoir un peu les... de clarté.
Et est-ce qu'un de tes buts, c'est de... Tu vas détester ma question. Mais je vais la poser comme ça, volontairement.
Ouais, ouais, ouais.
D'arriver à des instruments... de rechercher le caractère ultime d'un instrument, par exemple. Admettons. Tu fais un diamètre qui commence assez large. Là, tu as amené des didgeridoo avec toi. C'est des diamètres qui commencent assez large. Tu sais ce que tu aimes généralement en tant que joueur. Tu sais ce que tu aimes dans les didge. Donc, ça peut être des diamètres larges, mais qui sonnent aussi d'une manière particulière. Est-ce que, par exemple, tu vas faire, je sais pas, tu vas chercher une colonne d'air en do, qui sonne en do. Tu vas faire un premier test, colonne d'air large. Le didge, je sais pas, fait 1m60, quoi, peu importe. Et tu le testes et tu vas te dire ok, il sonne bien, mais il manque par exemple ce truc là et je vais essayer d'aller le trouver avec le prochain test. Est-ce que dans ta démarche t'as une volonté d'aller chercher une couleur particulière à ta colonne d'air?
Ouais,
vraiment,
c'est un truc qui me branche pas mal. Moi, je le formule un peu différemment dans ma pensée, c'est-à-dire que j'essaie de faire un ditch qui soit sans défaut. C'est-à-dire que s'il arrive à un point où, ok, là il est pas mal, mais il manque un peu ça, ou par exemple il va manquer d'harmonique, ou par exemple il est chouette, mais l'attaque elle sonne pas bien, je peux essayer de réparer ça. Mais par exemple, tu prends l'exemple d'un do, bah, je peux faire un do où ça va être vraiment axé sur la présence harmonique, avec une contrepression qui soit légère et vraiment beaucoup d'harmonique. Si le but est de fabriquer cet instrument-là, donc je vais le perfectionner pour aller le plus possible dans cette direction, mais c'est pas le do ultime, dans le sens où, par exemple, il peut y avoir un autre do qui est un peu différent, qui n'est pas forcément radicalement différent, mais qui va être un peu plus étroit, par exemple, au niveau du diamètre, et qui va avoir un peu plus d'attaque. Il aura moins d'harmonique. Donc ça va être deux instruments différents, en fait. Et je vais pas forcément... en privilégier un par rapport à l'autre. C'est pour ça un peu que je pense mon truc, peut-être on va en reparler après, mais par série d'instruments, si tu veux, selon des caractères que j'aime bien et que je veux développer. Par exemple, il va y avoir ce do-là qui va être beaucoup plus large, axé sur les harmoniques. En fait, ça va être cette série spécifiquement. Il y aura d'autres instruments qui vont être un peu sur ce caractère-là, ou une série qui va être un peu voisine, mais... un peu plus dans le compromis, avec peut-être un petit peu moins d'harmonique, un peu plus de dynamique.
Oui.
Ce genre de choses, en fait, c'est un peu des curseurs, quoi, qu'on positionne.
Oui, voilà. Ouais,
mais
ouais,
le but, c'est effectivement d'arriver à un truc qui soit clair et où on sache sur quel instrument, bah, où il est ce curseur, en fait. J'ai des colonnes d'air que je veux chercher, en fait, et un peu,
oui,
un peu des idées que je pense ça vraiment comme des séries, en fait, un peu...
Oui, alors pour moi, c'est l'autre force de ta manière de faire. Alex avait commencé à faire ça aussi. Il est parti sur des modèles, quand même, tu vois, Alex qui reproduisait, et puis il a essayé quand même des modèles qu'il a transposés dans d'autres tonalités. T'as le but, par exemple, si tu trouves un do qui sonne très bien, qui sonne très bien, tu me comprends. Un do qui
te satisfait.
Voilà, qui te satisfait, qui correspond en tout cas à ce que tu voulais faire au départ. Est-ce que tu as essayé de transposer à toutes les notes, par exemple, ou alors il y a un moment, ça atteint ses limites?
Toutes les notes, non, parce que je pense que certains caractères, ça va se prêter plus ou moins fidèlement à une certaine plage, en fait, de notes, de tonalités. Par exemple, un do bien large et tout, avec beaucoup d'harmoniques, tu vas pouvoir les descendre en si bémol, peut-être en la, en do dièse. Après, si tu veux refaire en mi, bah, ça va être vachement différent, si tu veux.
Ouais, mais ça peut sonner super.
Ça peut sonner super.
Parce que c'est là où on l'attend en grave, le large
sûr.
Et tout ça, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Je trouve.
Mais c'est un exemple un peu particulier, mais... Ça peut sonner super. Après, en fait, l'idée, c'est, par exemple, pour quelqu'un qui cherche un ditch, bah, vraiment d'avoir des repères, en fait, par rapport à qu'est-ce que je recherche comme caractéristiques, comme facilité de style de jeu, de technique, de tout ça, en fait.
Ça, moi, pour côtoyer beaucoup de joueurs et de joueuses de didgeridoo dans les stages ou via Wacademy, je me rends compte que c'est quelque chose qui... Je suis en colère contre les fabricants. En fait, c'est pas mon, mon boulot. C'est pas mon boulot. On me demande sans cesse quel ditch m'irait bien. Est-ce que tu peux me conseiller? J'avais fait des vidéos où j'ai très rapidement expliqué les caractères et tout ça chez Greg Didgeridoo Passion. Mais c'était vraiment rapide. C'était vraiment pour expliquer globalement. Mais je trouve que, alors là, pour le coup, tu vois, je trouve que ça serait c'est le boulot des fabricants. Par exemple, tu parlais des différents caractères. Tu vois, ou des différents critères, quoi, des différents curseurs. Mais en fait, il faut se dire que la plupart des gens n'ont pas du tout ce vocabulaire. La plupart des personnes qui veulent acheter un ditch ne connaissent pas ça. Quoi, tu vois,
ça, c'est vachement technique, ouais.
C'est vachement technique. Ouais, ouais. Et à la fois, je sais pas s'il y avait un glossaire, quoi, tu vois, s'il y avait quelqu'un qui fabrique des didgeridoo, comme toi, Cola, ou peu importe, un fabricant, en fait, mais qui énumère, tu vois... tous les critères, c'est-à-dire que t'as, je sais pas, j'imagine une chaîne YouTube avec des vidéos où t'as, par exemple, tu dis, bon, bah, voilà, on va parler des harmoniques. Alors, les harmoniques, qu'est-ce que c'est? Je sais pas quoi.
C'est mon boulot, ça.
Ouais, ça, les harmoniques, c'est mon boulot. Me pique pas mon boulot. mais en gros, comment est-ce qu'elles peuvent sonner si, par exemple, si tu prends trois modèles et tu dis, bah, voilà, on a la même note, on va prendre trois modèles avec la même note et écouter les harmoniques. Non, on se focalise que sur les harmoniques. Bon, bah, qu'est-ce que vous préférez? Quoi, tu vois? Et après, ils peuvent venir vers toi, dire, OK, bah, j'aime bien les harmoniques du modèle, tu vois, numéro 2. Par contre, j'aime bien les attaques de ça et tout. Et après, c'est à toi de faire ton boulot de fabricant à exposer les limites, tu vois, de ce qui est possible et tout ça, quoi. Tu vois un peu?
Ouais. J'avais pas pensé à cette façon de présenter le truc, à vrai dire, mais c'est une bonne idée. Tu vois, pour l'instant, j'ai été surtout à faire des instruments, puis montrer, faire des enregistrements, voilà. Qu'est-ce que c'est un peu brut, mais c'est vrai que pouvoir comparer, par exemple, un Do de plusieurs modèles différents et dire, voilà, comment ça sonne, c'est intéressant, ouais. Peut-être que je mettrai ça en place, ouais. C'est
une bonne idée, ouais. Ça pourrait être vraiment... Ouais. En tout cas, ça pourrait aider beaucoup de monde. Il y a vraiment une grosse demande là-dessus, quoi. Ouais. Et je reviens par rapport à tes colonnes d'air de Didge. Alors, tu fais, de ce que j'ai vu pour le moment, des colonnes d'air assez larges.
Ouais, donc c'est bien.
C'est pas moi qui vais m'en plaindre. je trouve ça aussi très agréable. Dans le monde du didgeridoo, dans le monde anglophone du didgeridoo, tout le monde s'accorde à dire que 30 mm d'ouverture de colonne d'air, c'est la moyenne. Parce que c'est quoi, tout le monde s'accorde. C'est ce qu'on trouve partout, quoi. Or, si c'est la moyenne, c'est-à-dire que 20 mm c'est très fermé. La moyenne, c'est bien la moyenne des deux écarts.
Ouais.
Donc, je pense que c'est plus 40 mm la moyenne, et puis après, ça fait 30 mm c'est fermé, puis 50 c'est ouvert, en gros, tu vois. Puis après, on peut y aller un peu plus. Est-ce que tu as prévu de faire ça, toi? Est-ce que tu as prévu de faire des didges ouverts à 50, 60 mm, des didges ouverts à 40, 45 et d'autres à 30, 35?
Oui et non. Oui. Oui, pour le début, c'est-à-dire que c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est vraiment pas mal ouvert et du coup j'ai une facilité pour faire les ditches que j'aime bien. Il y en a que je t'ai pas montré aussi, un Do dièse par exemple avec la survibration à l'octave, un truc assez fin, assez compressé. Je crois qu'il doit être à 38. C'en est un que j'ai fait il y a assez longtemps sur l'ancien bois qui est plus léger et qui est intéressant mais que je vais refaire par exemple avec ce nouveau bois dur. Mais en gros, j'ai une préférence quand même pour ces instruments larges. J'ai du mal à aller en dessous de 40, 38, 37, voilà, mais personnellement, des didges à 30, ça m'intéresse pas. Bah, c'est pas ma priorité, en fait.
Ouais,
je pense que j'y viendrai. Et en vrai, pour tout te dire, j'en ai joué des didges à 30 mm, et pas mal, en fait, j'ai appris aussi pas mal les premières années sur des instruments larges assez rapidement. Je pense que c'est un truc qui m'a pas mal aidé. Et après, j'ai voyagé avec un didge en fibre de verre d'Andrea Ferroni, tu vois.
Ah
les
oui, waouh, t'as joué avec ça?
Ouais. J'ai fait pas mal de musique de rue, donc j'ai joué un certain nombre d'heures avec ça, quoi, parce que c'était tout léger, j'avais ça avec le sac à dos. Et ça m'a pas mal déboussolé au début. Je me dis, bon, il me faut un didge tout léger, incassable pour mettre dans le sac à dos. Ah ouais, il est à 30 mm. C'est pas mes habitudes, mais j'ai appris vachement de trucs. J'ai joué beaucoup avec le didge de Walter Strasser aussi, j'ai cet instrument-là.
Ah oui, oui.
À l'intérieur, il est à 31 mm.
Oui,
c'est
oui.
Un super didge, extrêmement précis, et j'ai appris, pareil, j'ai un nombre d'heures avec ce didge, j'ai joué dans la rue, j'ai beaucoup joué, et j'ai vachement appris sur cet instrument. Donc en fait, je les mets pas à la poubelle pour autant. Okay. Vraiment, okay. Vraiment, je pense qu'il y a des trucs à apprendre dessus. Après, concrètement, au quotidien, c'est pas ceux avec lesquels je m'amuse le plus. Ils avaient leur utilité quand je jouais dans la rue. Il faut que tu aies un son qui soit très, très tranchant, en fait. Et du coup, ça s'y prêtait pas mal. Surtout quand tu joues beaucoup, voilà, au niveau de la fatigue aussi. Encore que tu fatigues un peu moins au niveau du souffle parce que tu craches moins d'air. Par contre, au niveau de ton articulation, au niveau de ta bouche et tout, ça travaille beaucoup plus fort.
Mais oui, t'as plus de pression.
Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est à double tranchant. Mais je pense que j'en ferai peut-être plus tard. En vrai, là, pour l'instant, j'ai un peu des lignes d'instruments moyennement larges que je vais essayer de compléter parce que je trouve que c'est les plus polyvalents par rapport à ce que j'aime bien. Mmh. Il y a quelques colonnes d'air très larges aussi, genre 55, 60, que j'ai envie de faire dans des instruments graves. Et puis ouais, ces instruments un peu percussifs avec la trompette à l'octave, avec vraiment le do dièse qui font 1m90, 1m95, tu vois, ce genre de colonne d'air, que j'aime bien, tu vois, c'est un petit plaisir coupable où tu tapes dedans et ça a un gros son et c'est quand même assez intéressant, puis ça plaît à pas mal de monde.
Oui. Ouais.
Je voulais faire aussi, je pensais faire un didgeridoo, pas forcément très étroit, mais un truc un peu pour débutants, conçu vraiment pour être accessible à jouer avec une ouverture à 40, un truc pas trop large, peut-être do dièse, ré, je sais pas, ou un truc où ce soit vraiment facile d'accès au niveau,
de
la pression, ou qu'il soit vraiment conçu pour ça. Mais pareil, pour ce genre d'instrument, je trouve que c'est pas pertinent d'aller sur 30 mm, parce que ça enferme aussi, et que pour apprendre...
Oui.
Pour en discuter, ça, peut-être t'as des points de vue plus précis parce que tu côtoies pas mal de monde qui apprend, mais voilà, ça me semblait un peu pertinent d'être dans ces diamètres-là, à peu près.
Ouais, c'est une bonne idée.
Après, des instruments à 30 mm, bah oui, et c'est dur de pas faire un instrument qui soit en trompette à ce moment-là, parce que 30 mm en haut, 50 en bas, ouais, je vois à peu près ce que ça donne, ça m'intéresse pas forcément, à moins qu'il fasse 2 mètres de long, ça fait des instruments rigolos à ce moment-là.
Oui.
Mais voilà, après, c'est que ça prend pas mal de temps, concrètement. C'est le début du projet. Et que du coup, vraiment mettre au point des colonnes d'air, comme je te disais, ça prend du temps.
Oui.
Et je l'essaye, je fais un instrument, puis soit il me plaît, ou alors je veux modifier un paramètre, et puis ça prend vite un moment, en fait, d'avoir ça. Et clairement, c'est pas dans mes priorités.
Ok.
J'ai un peu, en fait, ma liste mentale de okay, quelles sont les prochaines colonnes d'air qui vont naître et que je dois travailler. J'ai un peu ça en tête, ouais.
Oui, non, mais je comprends, ça demande un effort, et puis Quoi, moi, je me dis que j'ai attendu longtemps quand même avant d'aller essayer en tant que joueur me pousser un peu pour aller voir d'autres styles et puis me dire, ok, allez, je vais essayer de développer ça ou ça.
Ouais, concrètement, en fait, je veux juste rajouter ça, c'est que des instruments étroits, il y a pas mal de gens qui les fabriquent et c'est pas très compliqué de trouver un instrument qui soit à peu près de bonne qualité.
Oui, c'est vrai.
Donc, des instruments larges, c'est un peu plus compliqué à trouver ou c'est moins accessible financièrement aussi.
Oui, c'est vrai.
Des instruments étroits, il y a un peu moins ce truc de...
Oui. Par rapport à juste à colonne d'air, je voulais te poser la question par rapport à Digimo. Est-ce que tu utilises le logiciel Digimo ou un logiciel pour t'aider à penser tes colonnes d'air ou non, pas spécialement ?
Non, j'ai jamais fabriqué de Digimo. Avec Digimo, je me suis amusé un peu juste comme ça sur l'ordi à faire des colonnes d'air, à voir ce que ça donnait. J'étais pas hyper convaincu. Alors, j'ai eu des retours d'autres fabricants qui l'utilisent assez régulièrement et qui arrivent à faire des trucs précis, à vraiment bien tombé, bien... Enfin, ça a l'air de marcher pas trop mal, et moi, j'ai eu l'impression d'assez facilement réussir à lui faire donner des résultats un peu déconnants, quoi. Je sais pas si c'est mon interprétation qui était mauvaise, mais j'avais l'impression de donner des cotes et qu'il me donnait un peu des notes. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Peut-être que je me plante, peut-être pas. Mais, ouais, non, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, parce que, je te dis, ça va un peu à l'encontre de cette fabrication par de proche en proche, en fait, où j'arrive quand même assez... par rapport à ce que je connais déjà, à aller là où je veux, en fait. Mm. Et il y a un peu ce truc, enfin, d'opacité, en fait, où genre tu rentres des paramètres géométriques, on te sort des paramètres physiques, de fréquence et tout ça. Je sais pas, t'as des fabricants, en fait, enfin, parce que voilà, j'ai un peu ce truc de formation scientifique que j'ai pas complètement mis à la poubelle dans ma tête, où j'aime pas appliquer une formule sans la comprendre, et encore moins quand, genre, j'ai pas accès à la formule. Je pense par exemple à David, qui a son système de calcul, mais il l'a mis au point lui-même, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il s'est penché sur les lois de l'acoustique, sur la physique.
Là, on parle de David deux fois. Hein,
ouais, David, ouais.
Ouais. Okay. C'est juste pour préciser.
David, salut.
Du coup, lui, il a mis au point tout son système.
C'est-à-dire que voilà, il y a ce truc de s'approprier la démarche, en fait. Mm-hmm. Je trouve que c'est vachement plus intéressant Et que, parce qu'en fait, quand tu crées un modèle comme ça, de physique, de calcul, bah, tu fais des approximations, tu fais il y a des trucs que tu prends en compte, de trucs que tu vas compenser. Enfin, personnellement, ça ne m'attire pas d'utiliser ça si c'est pas un outil que je maîtrise, en fait. Juste appliquer une formule parce qu'on te la donne, bof, parce qu'en fait, la formule, elle cache d'autres trucs, des imprécisions, en fait, qui sont... Il y a des imprécisions, en fait, pour les comprendre, il faut avoir établi la formule soi-même, ou il faut être capable de la modifier, ou de prendre en compte certains paramètres, il faut avoir une compréhension de l'acoustique, que moi, je me suis pas penché là-dessus.
Ouais.
Et du coup, avoir un peu le truc tout cuit, en mode, tu mets tes cotes et on te donne des fréquences, personnellement, ça me plaît pas. Après, c'est un outil qui est utile, ça a l'air d'être chouette pour pas mal de gens, donc pareil, je mets pas ça à la poubelle, mais moi, j'aime bien me détacher de ça et avoir vraiment cette approche empirique. Là, je vais me replancher sur des nouveaux deals, je vais regarder ceux que j'ai, je vais regarder ma base de colonne d'air et dire ok, si je veux ça, bah, par rapport à ça, ça, je vais aller me positionner un peu comme ça sur mes paramètres. Du coup, non, c'est pas trop mon truc. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais si je m'y mets, ça veut dire passer sérieusement du temps à regarder un peu l'acoustique, comment ça marche de façon physique et mathématique. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme.
Je te propose qu'on écoute l'enregistrement d'un de tes didgeridoos. Alors, c'est un enregistrement que j'ai fait avec tes instruments. Donc, pour vous qui nous écoutez, j'ai enregistré le do dièse parce que j'aimais particulièrement ce modèle-là. On se retrouve juste après. À tout de suite. Donc là, on vient d'écouter un enregistrement d'un didgeridoo en do dièse. Si tu veux, on va juste clôturer un peu l'interview sur ton parcours de joueur, un peu parce que ça influence aussi beaucoup ta fabrication. Toi, tu as commencé il y a combien de temps ? C'était début des années 2000 aussi, ou un peu comme moi ou...
2006.
Ah, ouais. C'était 2006, ouais.
Ouais.
Et du coup, tu continues à jouer ton didge, toi, ou tu le bosses encore ? Tu joues encore ?
Bosse, non, pas en ce moment, non, pas depuis... Ça fait deux, trois ans que vraiment je le bosse plus concrètement. Je joue encore moins qu'à des... C'est vraiment par période, en fait. On a déjà discuté de ça, tu vois. Ça va, ça vient selon les envies, le temps que tu as à y mettre. Il y a 5, 6 ans, 3, 4 ans et tout, je jouais beaucoup. Je jouais dans la rue, je faisais un peu des concerts, j'enregistrais des albums et tout. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment cet élan un petit peu de jouer... vraiment beaucoup, à la fois pour le plaisir et puis pour bosser. Bosser, je ne l'ai vraiment pas fait jusqu'à ce que je me dise, tiens, je vais enregistrer un album, parce que je jouais pas mal dans la rue. Même à l'époque où je jouais beaucoup dans la rue, je travaillais pas vraiment, en fait. Je me posais, puis je jouais, il y avait des trucs qui revenaient. Mmh. Du coup, c'est une forme de travail quand même. Mais non, là, aujourd'hui, en ce moment, je suis pas mal pris par beaucoup de choses, dont la fabrication de DJ, puis fabriquer d'autres trucs. Et, Mais depuis que je fais ces instruments, je retrouve un peu le goût à juste jouer simplement. Mmh. En fait, prendre un DJ, souffler dedans et voir ce qu'il y a aussi, parce que je me sors un peu de ce mode de, comment dire, de faire de la musique pour des gens, parce que j'ai pas mal fait ça finalement.
Oui, de production musicale, quoi.
Ouais,
De
c'est ça.
produire un truc.
Qui est un mode intéressant, mais ça me fait du bien d'en être sorti, quoi. Et là, vraiment, juste fabriquer des instruments et reprendre un peu le plaisir de poser dans l'atelier qu'un DJ qui sort, qui est tout fait, et puis jouer avec et voir un peu. Parce que déjà, c'est complètement nécessaire pour fabriquer des instruments. Hein. Si tu les joues pas, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont dans le ventre et qu'est-ce qu'il peut y avoir à corriger, à changer et tout. Mais
Oui, c'est un
ouais, je joue
plus,
beaucoup
ouais.
moins, mais c'est ouais, c'est un peu ce plaisir-là qui
Juste par
reste.
rapport à ton parcours de joueur, tu disais je le bosse plus ou quoi, tu vois, voilà, je préfère me laisser porter maintenant, jouer pour le plaisir, tout ça. Est-ce que tu as eu une phase où quand même tu as bossé tes morceaux, tu répétais tes morceaux, tu bossais, je sais pas, tu t'accompagnes au kick avec, quoi, tu t'accompagnais avec un kick au pied, non, ou quelque
Ouais,
chose comme
j'ai fait ça ouais,
et...
quelques années avec les Rav Vast aussi,
Oui, voilà,
pas
c'est ça.
les tong drum en métal, ouais.
Oui, qui sont des espèces de...
D'espèce de hang pour faire râler les puristes en disant que
Voilà,
c'est
c'est
des hang, en
ça.
fait, faut pas le dire trop fort, c'est pas le même principe acoustique qu'un hang, c'est des percussions à la
Mais en
malle en
gros,
fait.
ça fait à peu près... quoi, c'est
C'est
vraiment à peu
rond et en
près.
métal,
Oui, c'est juste
voilà.
pour qu'on puisse... Mais...
Moi pour faire chier les puristes, parce que j'aime bien.
Mais d'ailleurs, t'as sorti un album, tout ça. Est-ce que toi, t'as travaillé vraiment beaucoup pour ça? Quoi, je veux dire, est-ce que tu t'as passé des après-midi à se dire, ok, maintenant je bosse le morceau numéro 3, ou je sais pas quoi, ou c'est à force de jouer dans la rue, ça s'est construit tout seul, ou t'as conscientisé ce travail?
À ce moment-là, je l'ai vraiment travaillé sur cet album que j'ai fait il y a 2018, il y a 3 ans. Du coup, je l'ai sorti au printemps et pendant l'hiver, j'ai bossé, ouais. Mais par exemple, le premier album que j'ai fait, où c'était du solo de DJ, j'ai pas beaucoup bossé. Je sortais d'une période où j'avais beaucoup joué dans la rue, donc les morceaux, un peu, ils s'étaient faits tout seuls, mais à des variations près, mais j'ai pas bossé de façon carrée. Et après, par contre, quand j'ai commencé à jouer, notamment avec ces Rav Vast, où t'as vraiment un aspect mélodique, en fait, qui était assez nouveau pour moi, où, bah, du coup, déjà, si je le bossais pas, ça ressemblait à rien, et ça m'encourageait à le bosser, en fait, c'était vachement intéressant, du coup, d'avoir à nouveau, enfin, ce support mélodique pour la composition, en fait, je le trouvais vachement riche, et que ça débloquait pas mal de ce que je faisais au didgeridoo, où j'utilisais pas beaucoup la voix, en fait, donc déjà, l'aspect mélodique, bon, on le retrouve, les harmoniques, c'est un peu différent, mais voilà, pour moi, c'est un peu mon substitut de mélodie dans le didgeridoo, c'est la mélodie harmonique qu'il y a derrière, mais en fait, d'avoir ces instruments mélodiques, ça m'a mis vraiment dans ce mode où bah ouais, j'ai bossé des morceaux, ouais. J'ai passé une bonne partie de l'hiver à ne serait-ce que pour apprivoiser le truc, parce que je me suis dit, allez, je vais faire ça sérieusement. Puis en fait, tu prends le handpan, tu prends le didgeridoo, tu les joues séparément, ça va. En fait, déjà, devoir les mettre ensemble, au début, c'est impressionnant à quel point je savais plus rien faire, aussi bien au didge qu'au Rav Vast. En fait, là,
Oui.
j'étais débutant sur cet instrument, le didge, j'étais confo. À jouer les deux en même temps, j'étais plus du tout confo sur l'un ou sur l'autre. Du coup, j'étais vraiment obligé de travailler, de reprendre un peu les bases. C'était intéressant, c'était assez dur aussi. Mais ouais, j'ai fait ça avec pas mal de plaisir, et puis voilà, jusqu'à enregistrer à la fin de l'hiver, puis j'ai sorti un album. Et après, j'ai joué dans la rue pas mal, j'ai fait quelques concerts aussi sur ce genre de set, sur ces morceaux qui ont évolué du fait que je les joue dans la rue, qui ont été un peu repris. J'ai eu quelques phases comme ça où j'ai bossé après l'année suivante, il y a 2 ans. J'ai fait quelques concerts aussi, et du coup bah, j'ai un peu rebossé pour avoir un set un peu différent, refaire un peu des morceaux. Et puis voilà, après c'était les derniers concerts, c'était il y a 2 ans, parce qu'après on sait comment ça s'est passé quoi. Et ouais, c'est un mode particulier vraiment de travailler, créer des morceaux que j'aime bien à petite dose. De temps en temps, quand ça s'y prête, quand il y a un contexte en fait qui me dit, hey, il faudrait que tu fasses ça, je le fais. Sinon, spontanément, comme ça. C'est pas un truc qui m'attire au quotidien, quoi.
Du coup, on va écouter un de tes morceaux de ton dernier album, juste pour voir un peu ton univers.
Thank you.
Merci Cola pour ce morceau. On peut le retrouver sur internet. Je mettrai les liens sous le podcast si les gens veulent se procurer ton album. Pour en revenir à tes didgeridoo, si les gens veulent s'en procurer un, comment ça se passe? T'es un peu nomade, je crois.
Ouais, bah ça dépend des moments. Je suis un petit peu semi-nomade en fait. Du coup, je vis dans un camion où du coup je me déplace. J'ai un peu des régions où j'aime bien traîner. Et puis j'ai mon atelier qui est fixe, qui est en Bourgogne, du côté d'Avallon. Okay. Donc où je passe un peu des moments pour travailler, pour faire des instruments, donc c'est possible de me retrouver là-bas pour essayer les didges. Et puis sinon, bah, c'est selon où je vais être, en général j'ai des instruments avec moi, donc voilà, je suis...
Tu fais des envois aussi, possible?
Ouais,
ouais. Et t'as déposé des didges chez Greg, non?
Oui, c'est vrai,
chez DJ Rigo Passion.
Ouais, c'est vrai, il y a quelques instruments chez Greg, ouais.
Moi, je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'avantage, c'est que tes DJ Rigo se retrouvent quand même à un niveau de prix qui reste tout à fait abordable. Quoi, je trouve que c'est quand même le gros avantage, c'est qu'on s'approche très, 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 très fortement du haut de gamme pour un prix qui est... Je sais pas combien ils sont tes DJ, autour de 500 à peu
ouais,
près.
C'est ça, autour de 450, 500... En gros, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que ça évoluera un petit peu dans le futur, mais voilà, ce sera pas fondamentalement plus cher que ça, quoi.
Ouais, c'est bien.
Bah, c'est un peu l'avantage aussi de ma technique de fabrication, ça va relativement vite, en fait. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas mal de boulot et tout ça, mais voilà, pour arriver à une colonne d'air précise, j'y passe pas 6 semaines à creuser...
Je mettrai le lien en dessous du podcast, le lien de ton site qui, à l'heure où on enregistre ce podcast, n'est pas encore en ligne.
Bientôt,
oui, je t'encourage vivement à le mettre en ligne. mais voilà, je mettrai le lien en dessous du podcast. Et puis, bah merci pour tout ce temps et d'être venu jusqu'ici, parce que là, on a enregistré le podcast pour le coup chez moi, quoi.
Bah merci à toi pour l'invitation, avec plaisir. Merci pour tes questions et tout ça.
Et bah ouais, bonne continuation. Et puis, longue vie. Ah, tu nous as même pas dit le nom.
C'est vrai.
Je suis oh là ça. Là Vas-y alors.
Ce sera le mot de la fin.
On termine.
C'est les instruments Expira.
Expira. Merci, voilà. Cola. À bientôt.
Avec plaisir. Salut, Gauthier.
Salut. Voilà, c'en est terminé pour l'entretien avec Cola. Je précise que l'enregistrement a été fait en novembre, donc il y a quelques mois. Depuis, Cola a lancé son site Expira avec tous ses didgeridoo en ligne. Donc vous pouvez directement aller voir sur son site. Je mettrai le lien sous le podcast et dans la page qui est prévue du podcast sur Wacademy. Je précise aussi que je ne gagne pas d'argent sur les ventes de Cola. Je voulais vraiment partager sa vision de la fabrication et aussi sa démarche avec vous, parce que je trouve que vraiment il arrive à un rapport qualité-prix avec ses instruments qui est pour moi très difficilement battable. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, je voulais surtout lui donner un coup de pouce, lui, parce qu'il se lance et que c'est jamais facile de se lancer, et puis aussi vous, de vous donner la possibilité de connaître un nouveau fabricant de didgeridoo qui est vraiment très intéressant. Je vous dis à la prochaine, surtout sur des vidéos YouTube. Là, je suis beaucoup plus axé sur les vidéos YouTube, mais je continuerai certainement le format podcast un peu pour entretenir, même si j'ai pris un peu de recul par rapport à ce format-là. N'hésitez pas à venir faire un tour sur Wacademy, il y a le forum, il y a les cours gratuits, il y a les formations complètes pour se perfectionner au didgeridoo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut.